Voilà. Non, c'est une joie d'être ici. Je suis vraiment content. Content parce que je suis venu il y a 2 ans et ça s'est bien passé. Et puis content de voir Mamie, Pierrot, Déborah, c'est ça, hein, le nom. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en Belgique. Et donc voilà, maintenant on se voit, on est très international à nous. Hein, donc c'est chouette. Alors j'ai un autre défaut, je suis belge. Voilà, personne n'est parfait. Là. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et la dernière fois, en effet, j'ai dit, Dieu n'abandonne pas. Et ce matin, c'est encore un petit peu un thème qui va dans ce sens-là. Et je ne savais pas quoi mettre comme titre. Alors, peut-être Dieu de l'impossible ou qui est comparable à Dieu. Alors, j'ai trouvé un autre nom. Dieu, il est tellement incroyable qu'il est deux croyables. Je vous laisse le temps, voilà. Il est deux croyables. Voilà. Et la prédique, enfin, le texte que Dieu a mis sur mon cœur, c'est 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, donc versets 1 à 20. C'est une histoire connue, c'est Anne, la mère de Samuel, qui est un exemple pour nous. Moi, ce matin, j'ai envie d'un peu lire ça. Il y a des gens comme ça dans la Bible, ce sont des patriarches, d'une part, et d'autre part, ça peut être des matriarches aussi. Ici, on a une dame, c'est une femme de Dieu. Ça va la vitesse, ça va là quand même, hein? Merci. Parce que là, je fais un effort surhumain pour parler doucement. Et donc, mais c'est vrai que c'est mieux hein, pour intégrer les messages quand tu vas trop vite. C'est vrai que quand je me réécoute, des fois, je me dis, aïe, 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 tu parles trop vite. Enfin, c'est pas grave. Alors, y a des gens dans la Bible comme ça, ils sont vraiment des modèles pour nous, des modèles, que ce soit des hommes ou des femmes. Cette fois-ci, c'est une femme, c'est un modèle de foi. C'est un modèle de foi parce qu'elle est un exemple dans la souffrance. Elle est un exemple pour nous dans un contexte difficile. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est frappant. C'est quelque part, quand tout va bien avec Dieu, c'est facile de venir le dimanche matin, louer Dieu, lever les mains. C'est facile de dire, il ne m'abandonne jamais. C'est facile de dire, Jésus, tu es tellement bon avec moi. Là, c'est facile. Mais quand le contexte est compliqué, quand c'est chaud, quand c'est difficile, eh bien, il faut des fois trouver la force pour lever les mains, ne fût-ce que se mettre debout pour la louange, c'est compliqué parce que la vie peut être lourde des fois. Et alors, ce n'est pas grave parce que justement, cette dame aujourd'hui, qui a une vie lourde, qui a un contexte pas facile, elle va être un exemple pour nous aujourd'hui en 2025. Et ce qui m'intéresse, c'est comment, et c'est la question que je pose au texte, et c'est à ça que je vais tenter de répondre, et comment elle fait pour gérer son contexte difficile? Quelle est son éthique? Comment elle se comporte dans un contexte, mais vraiment pas confortable du tout? Et ça qui m'intéresse ce matin. Et voilà. Et puis juste avant, on va encore faire une prière. C'est le réflexe. Hein. C'est pas qu'à la prière, c'est un réflexe. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. La parole déclare justement que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Et Seigneur, quand tu es présent, on sait que quelque chose se passe. Eh bien, ce matin, Seigneur, que quelque chose se passe dans le cœur de mon frère, de ma sœur, que nous ne puissions pas rentrer dans le même état qu'on est arrivé, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Parle-nous. On a besoin de toi. On a besoin d'entendre une parole qui nous réconforte ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et je m'oppose aussi à toutes les distractions du diable dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, prenons le texte, hein. Anne, 1 Samuel 1, verset 1 à 20. Est-ce que vous projetez ou pas? Non? Pas de souci. Si c'est pas joli. Ah, magnifique. Super. Alors, c'est la version mandarin que j'aimerais. Oh, non, non. Il y avait un homme de Ramathaim Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom de Elkana. Il était le fils de Jéroam, fils de Eliou, petit-fils de Tsouf, pardon, Tohu, et arrière-petit-fils de Tsouf. Et il était éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est ça tout le problème. Sa rivale, Déjà avec une femme, c'est compliqué. Avec deux, je ne sais pas comment ils font. Sa rivale, c'est pour rire. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Donc je relis cette phrase-là. Hein. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. C'est une phrase en hébreu, j'ai pas le temps, mais en hébreu, le verbe est vraiment fort, en fait. Hein, c'est bien traduit. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Ça, c'est le sommet de la tristesse et de l'abandon. Hein. Quand on n'a plus d'appétit et qu'on ne dort pas, qu'on ne boit pas et qu'on ne mange pas, c'est vraiment difficile. Son mari Elkana lui disait, mais Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, et après que l'on eut mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, encore une fois, hein, c'est difficile, hein. L'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et pleurait abondamment. Et elle fit un vœu. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de sa servante, et si tu te souviens de moi, et tu ne m'oublies pas, et tu n'oublies pas ta servante, et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que bouger un peu ses lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre et lui dit, mais jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Anne répondit, pauvre femme, Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattue. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait pleurer jusqu'à, pardon, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit, la parole est dit, mais pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière et que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. On a un texte par cœur, on le connaît, on a déjà lu. On se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de ça ce matin? Eh bien, on va voir ensemble. On va voir ensemble. Et comme j'ai dit, voilà, ça c'est le contexte typique d'une personne qui... Pardon, je ne vois pas très bien, il y a plein de tâches. J'ai 3 petits-enfants. Et d'ailleurs, si 2 des 3 seraient ici pour la louange, c'est juste impossible. Ils sont très... En même temps, les chiens ne font pas des chats. Donc voilà, je ne peux pas me plaindre. On est très contents avec eux. Et donc voilà. Et donc voilà un exemple concret d'une femme qui craint Dieu, d'une femme qui croit en Dieu, d'une femme qui a la foi. Et ça ne veut pas dire que quand on a la foi, tout va bien. On a vu ici, c'est des théories bizarres qui tournent aujourd'hui. Il y a des théologies bizarres qui disent que si on croit en Jésus, si on croit en Dieu, mais tout va toujours bien. La santé est parfaite, les finances sont tellement bien qu'on ne sait plus quoi faire avec notre argent, tout ce qu'on touche réussit, etc., etc. Le couple, c'est merveilleux, etc., etc. Tout va bien. Et quand quelque chose ne va pas, finalement, eh bien, cette théologie dit, mais c'est que tu as fait quelque chose qui n'allait pas. Un péché ou quoi que ce soit. C'est évidemment pas biblique, c'est évidemment faux, c'est même démoniaque, ces choses-là. Parce que quand on lit la Bible, à toutes les pages de la Bible, les serviteurs de Dieu souffrent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui agit, Dieu qui les élève et puis Dieu qui les envoie. Et alors ça va. Mais il y a toujours un temps de désert, il y a toujours un temps difficile. Il y a même Jésus lui-même, à la croix, ben, il a été humilié, il a été abusé, il a été nu, il a été fouetté, il a été humilié. On lui a craché dessus, Jésus lui-même. Et même après la guerre, quand il ressuscite, il reste les séquelles de ce qu'il a eu, hein, au niveau de la chair en tout cas, il y avait des marques de clous, et il y avait encore les séquelles, les douleurs. Donc, servir Dieu ou être chrétien, ce n'est pas tous les jours rose, c'est faux. Par contre, et je ne veux pas veut surtout pas qu'on sorte avec un message de non-espérance. Par contre, dans notre situation compliquée, dans notre contexte compliqué, on peut s'attendre à ce que Dieu agisse au moment opportun. Amen. Ça, c'est biblique. Ça, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a plein d'espérance. Si vous voulez, chaque tempête a une fin. Chaque nuit a un matin. Chaque épreuve, à un moment, elle termine. Chaque tempête se termine. Amen. C'est ça, la Bible. Pour moi, ça, c'est biblique. C'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est que Dieu veut qu'on traverse ça avec lui. Pourquoi ? Pour avoir une relation plus intime avec lui, pour le connaître concrètement, pour voir, mais tiens, j'ai eu des souffrances, mais Dieu a agi puissamment. Amen. Parce qu'il est vivant, en fait. Et si tout va toujours bien, qu'est-ce qu'on va dire aux gens qui nous entourent, qui sont dans la souffrance ? Parce que si on ouvre les yeux, par exemple, alors les chiffres, je ne suis pas très sûr, c'est des vieux chiffres, mais à vérifier. Dans le temps, quand j'ai lu ça, j'avais lu que, par exemple, il y a 80%, je crois, de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau comme nous, on a accès à l'eau. Et tu vas dire à ces gens-là qui n'ont pas accès à l'eau, et il ne faut pas courir loin, hein, faut pas, ou regardez pendant le Covid les files à Genève, les files qu'il y avait pour les banques alimentaires. Donc, c'est pas facile, c'est facile nulle part. C'est facile nulle part. Alors, c'est une grâce quand ça va, et il faut remercier Dieu. Amen. Et donc, cette dame, Anne, je vais me concentrer sur elle, cette dame est un exemple, et on va voir comment elle l'a fait pour s'en sortir. On va voir comment Dieu l'a rejointe dans sa souffrance. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, s'il y a une dame, premier point, s'il y a une dame dans la Bible qui connaît le mot souffrance, c'est Anne. C'est terrible. On va un peu voir deux, trois trucs. Le premier problème, le plus gros, c'est le fait qu'elle soit stérile. La stérilité, c'est vraiment un problème dans un monde, dans un contexte agricole, où évidemment, plus tu as d'enfants, plus tu es béni parce que tu as de la main-d'œuvre, etc., etc. Et donc, il y avait le mot hébreu, par exemple, akara, est toujours au féminin. C'est jamais les hommes qui sont stériles, c'est toujours les femmes. C'est récemment qu'on a découvert que les hommes peuvent aussi être stériles. Donc, c'est une souffrance pour la femme, dans tout le monde antique ancien. Et il y avait des croyances juives, qui disaient « Dieu récompense les justes en leur accordant une grande descendance. » Et toi, tu es stérile. Autrement dit, si je lis la phrase à l'envers, ben, si tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi et qu'il ne te bénit pas. C'est violent. C'est violent. Continue. La stérilité était donc vue comme une conséquence du péché. On pensait, puisque tu es stérile, c'est à cause d'un péché que tu as fait. Si ce n'est pas toi, c'est tes parents en arrière. Ce qui n'est pas biblique. Ah, aujourd'hui, on est sous la grâce, tout ça, c'est pas, il ne faut pas y croire. Et dans la tradition juive, une femme sans enfant était perçue comme une personne inutile. C'est dur. C'est une violence. Terrible. Dans le droit juif, on continue, hein, le droit juif, qu'est-ce qu'il est marqué ? La stérilité était un motif de divorce. Si une femme ne donnait pas un enfant à son mari dans les 10 ans après le mariage, motif de divorce. Autrement dit, puisque à travers ma femme, je n'arrive pas à être béni, je peux prendre une autre. C'est violent, hein ? Ça, c'est Anne. Et Anne a souffert de ce regard-là pendant des années. C'est pas juste 15 jours, c'est des années, d'année en année, etc. Je vais revenir après. On continue. Deuxième point dans le premier, hein, elle a une rivale. Elle a une rivale qui tente de la faire irriter, qui tente de casser sa relation qu'elle a avec Dieu en disant « Regarde, Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas, il ne t'aime tellement pas. » C'est terrible, hein. Il ne t'aime tellement pas, il te déteste tellement qu'il ne te bénit pas avec des enfants. Jour après jour, après jour, après jour, pendant des années. Pire, je sais pas comment ils habitaient, mais ils habitaient certainement pas très loin l'un de l'autre. Anne voyait les enfants de Pénina courir, crier, faire du bruit tous les jours. Et elle, tous les jours, elle pleurait. « Seigneur, pourquoi tu ne m'aimes pas ? Pourquoi tu ne m'aimes pas ?» qu'elle devait se dire. Continue sa souffrance, son mari ne la comprend pas. « Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 enfants ?» Eh bien non, qu'elle va dire. Non ! Donc elle n'est même pas comprise par son mari. On continue. Élie, le prêtre, c'est pas n'importe qui, Élie, c'est quand même le gardien du temps, enfin on rigole pas avec lui. Lui, il pense qu'elle est ivre alors que c'est une femme de prière. voyez un peu, tout est mis à l'envers. Tout. Des fois, ça arrive dans des contextes où on fait quelque chose, c'est interprété à l'envers et finalement, on passe pour les méchants alors que c'est pas, Anne n'est pas ivre. Et puis, elle priait l'amertume dans l'âme. Il faudrait faire un petit peu une étude des mots amer. Amer, triste, mangez pas. C'est un contexte difficile. Donc, s'il y a une femme, c'est ça que je voulais, premier point, s'il y a une femme qui sait ce que c'est la souffrance, c'est elle. Et Anne, avec tout ça, je vous assure qu'elle peut se dire « Dieu ne m'aime pas ». Je peux vous dire qu'elle se sent triste à mort. Je peux vous dire qu'elle se sent vraiment abandonnée. Et je peux vous dire que quelque part, alors je vais dire un gros mot, elle peut sentir déçue de Dieu. On n'ose pas trop dire ça. Hein. On n'ose pas trop, ça fait mal, hein, ça pique, hein, ça. En tout cas pour le moment. Mais Dieu va pas la décevoir, Dieu va... la bénir sérieusement. Mais ça, c'est ce qui se passe avant la bénédiction. Okay, en tout cas, là, elle peut se dire, ha, Seigneur, c'est dur. Seigneur, c'est dur. Bref, elle souffre le martyr. Et ce qui m'intéresse, et c'est ça, comment elle fait pour s'en sortir? Quel est son comportement qui fait qu'elle sort de la souffrance pour entrer dans une joie immense? Comment ça se fait comment elle fait pour sortir de là? Comment elle fait pour sortir de ce marasme annuelle, comment elle fait? Eh bien, premier point, super important, elle a une vision, elle a un rêve, elle a un projet. Mais le mot que tu veux dessus, c'est pas peu importe, moi j'aime bien le mot rêve. Elle a un rêve, elle a une vision, elle a un projet, elle a quelque chose qui est un peu inexplicable, qui touche un peu à la foi. Elle croit que le Dieu qu'elle sert est encore vivant, elle croit que le Dieu qu'elle sert est encore assez puissant pour faire qu'elle soit enceinte. Alors que tout son contexte montre qu'elle est stérile. En fait, Anne ne tremble pas. Anne ne laisse pas son contexte la faire trembler. Au contraire, avec le projet qu'elle a, elle va faire trembler son contexte. Elle va dire à son contexte, « Tais-toi, le Dieu que je sers est capable de me rendre enceinte. » Amen. Elle a une vision, elle a un projet. Et c'est vrai que peu importe qui on est, pasteur ou pas pasteur, quand tu as une vision, quand tu as un projet qui vient de Dieu, il faut que je mette ce mot-là avec. Quand tu as un projet, une vision qui vient de Dieu, quand c'est Dieu qui t'a donné ça, tu es inarrêtable. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Amen. Et je nous encourage à, si ta vision est un peu, hein, comme dans Habakkuk 2, hein, si ta vision tarde, attends-la. Amen. Si ça fait longtemps, attends-la. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas en vacances. Il prépare quelque chose. Amen. Elle a une vision, et cette vision fait qu'elle peut supporter la souffrance. Ce rêve qu'elle a fait qu'elle peut supporter Pénina qui dormit tous les jours. Elle peut supporter le cri des enfants qu'elle n'a pas. Elle peut supporter l'amertume qu'elle a. Elle peut supporter le regard des gens qui disent que Dieu ne l'aime pas. C'est ça, la vision, le projet fait qu'elle transcende, ça, elle se dépasse. Et c'est une histoire de foi. C'est une histoire de foi, c'est un truc un peu individuel, et voilà. Mais elle a ça. Et donc, je nous encourage, le premier point pour sortir de nos contextes difficiles, il faut apprendre à rêver ou re-rêver. Amen. Celui qui ne veut pas que tu rêves s'appelle le diable. Il fait tout pour qu'on ne croie pas. Il fait tout pour qu'on croie que Dieu, ben, il ne nous aime pas. Il fait tout pour croire que, hein, le contexte, il y a des contextes difficiles, hein. Il y a des contextes difficiles où... Et finalement, on regarde avec nos yeux charnels, on se dit, mais ça, c'est quand même compliqué. Il faut être un peu... Il faut être réaliste. Je ne dis pas qu'il faut être fou. Il faut être réaliste, mais il faut aussi croire que Dieu est capable. Amen. Deuxième point, cette femme, elle a une persévérance à toute épreuve. Il y a une dame, une fois, qui m'a dit, percer, tu verras. Marrant, hein? Et c'est vrai que quand on persévère, c'est ça le truc. En fait, quand tu arrêtes, tu perds. Une fois que tu arrêtes, tu peux faire des pauses. Les pauses, c'est chouette. Mais quand tu abandonnes, là, c'est terminé. Jusqu'au moment où tu continues à croire que Dieu est capable, comme sa vision là, eh bien, tu es inarrêtable. Et cette persévérance fait que je continue à me battre, même si je ne vois rien, que ce n'est pas facile. La persévérance, c'est pas ceci. Oh, tu sais, moi, tout va bien pour le moment. Tout va bien. Je suis au sommet de ma vie. J'ai tellement d'argent, par exemple, écoute, je ne sais plus quoi faire avec. Ça, c'est devenu un problème. écoute, je mets 2 dîmes par mois pour être sûr, je soutiens 600 missionnaires, je pars 12 fois par an en vacances, une fois par mois, et j'aide les pauvres de mon quartier. Et tu sais, il me reste beaucoup de sous, j'ai 7-8 voitures, je ne sais pas quoi faire avec. Donc je persévère, je viens à l'église et tu sais, je prie, tout va bien. Ça, c'est jouir de la vie. Ça, c'est jouir de la vie. Persévérer, c'est quand tu arrives au 15 du mois, tu te dis comment on va faire. Et en plus, ce mois-là, justement, la voiture tombe en panne. Justement, il y a des vacances qui arrivent, il faudrait les payer. Et ça rame, et ça rame, et ça rame. Ça, c'est persévérer. Eh bien, je continue à croire que Dieu est capable d'agir dans ma vie. Amen. Je persévère. C'est difficile. Des fois, à l'église, on ne dit même pas bonjour. C'est difficile. Celui qui a plein de sous, rassurez-vous, on va lui dire bonjour, on va lui serrer là, on va l'embrasser, on va lui offrir un verre, un café. Toi qui n'as rien, on va même t'oublier. Mais continue à croire que Dieu est capable. Donc, n'arrête pas. Persévère. Perce et tu verras. 3e point qui m'intéresse chez elle, quelle femme de prière? Comment je sais que c'est une femme de prière? Comment vous savez, vous connaissez Usain Bolt? Évidemment, hein, le coureur le plus rapide du monde, The Thunder. Et comment on sait que le gars, il est sérieux? Comment je sais que Usain Bolt, il ne fume pas? Comment je sais qu'il ne se drogue pas? Comment je sais qu'il ne mange pas de frites comme nous en Belgique? Comment je sais qu'il a une alimentation saine? Comment je sais qu'il s'entraîne des heures par jour? Parce que je vois le résultat. Quand il court en 9 secondes 58, 100 mètres, mais moi je fais 20 mètres en 9 secondes 58, vous voyez, parce que je ne m'entraîne pas. Donc il n'y a pas besoin qu'il me dise, tu sais, moi je m'entraîne, j'ai une vie, vraiment je ne sors pas, je ne bois pas d'alcool, je suis sérieux, je dors, je fais attention au sommeil, évidemment, parce que tout ça fait qu'il réussit. Qu'est-ce qui me fait dire que Anne, c'est une femme de prière? Quand elle est au temple, elle prie longuement. L'amertume dans l'âme, ça, c'est les combattants. Attention, là, on arrive dans les combattants. Ce n'est pas juste je prie le matin avant d'aller au travail ou je prie le soir avant d'aller dormir. Là, c'est une combattante. Amère, difficile, situation compliquée, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie longtemps. Amen. Ça, c'est une grande madame. C'est une femme habituée au combat spirituel. Et il y a une dame qui prêchait l'autre jour, et elle dit, alors je ne vais pas le dire en français, je vais le dire en anglais parce que ça ne marche pas en français, elle dit, quand tu pries, prends l'acronyme PUSH. Pray until something happens. Amen. Prie jusqu'au moment où quelque chose se passe. Comme Anne. Elle a prié jusqu'au moment où quelque chose se passe. Waouh. Et c'est ça aussi, la prière, c'est une arme. Et qu'est-ce qu'il fait le diable? Il fait tout pour qu'on arrête de prier, évidemment, parce qu'il sait que quand on prie, quelque chose se passe. Amen. Elle a prié longtemps, et c'est ça qu'elle est un exemple pour nous. C'est une matriarche. Moi, j'appelle ça des grands-mères spirituelles. Ça, c'est des dames. J'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, une femme de pasteur. Son mari est mort depuis 10 ans. Oh, elle doit avoir 78, 79 ans. Elle me téléphone il n'y a pas longtemps, j'avais un grand problème. Elle me dit, passe à la maison, on va prier. Moi, je dis, on va prier 10 minutes. 3 heures, on a fait. Deux dames et moi, des femmes. Je dis, mais mon ami, ça a pris ça. Et tu as parlé des trucs. J'ai là, waouh. Waouh, voilà. Et je lui ai dit, quand même, hein, les femmes de pasteur, hein, c'est quand même du lourd. Elle m'a dit, elle a rigolé. Parce qu'elles sont habituées. Elles sont habituées au combat. Et les femmes pasteurs, c'est encore plus lourd. Ça, c'est, voilà. Vous avez de la chance, vous avez une mamie qui est ici. Ça, c'est bien. Ça. Et un papa pasteur, c'est bien. Voilà. Bref, elle prie, et elle prie quand ça ne va pas. Parce que aussi, prier quand ça va, ben ça va. Mais prier quand tu vois rien, que ça ne va pas, ça c'est compliqué. Et ça, mais c'est ça qui prépare l'onction, c'est ça qui prépare la bénédiction. Tu continues, tu persévères, tu vois rien, tu continues, tu vois toujours rien. Tu persévères, tu persévères. Je ferais bien un petit témoignage. Moi, quand je cherchais mon épouse, on était 4. Alors moi, j'ai grandi avec des Congolais. J'étais le seul blanc souvent. Et donc, parce que mon pasteur était Congolais. Et donc, on était tous dans le ministère, assez jeunes comme ça. Moi, 23 ans, eux aussi, c'était les fils du pasteur et moi, en fait. Et donc, on avait plus ou moins le même âge, 22, 21, 23, par là. Et on était chaud, hein. On était leader de jeunes, on organisait des prières, on faisait des concerts, on faisait des camps, tout ça, toujours tout pour Jésus. Et puis on faisait tellement pour Jésus qu'on a oublié de se marier tôt, comme ça. Et à un moment, on s'est dit, on voyait tous nos potes qui se mariaient et nous pas. Et alors, et on vieillissait comme ça, 23, 24, 25, tous les trois. Et alors, à un moment, on s'est dit, vers 25 ans, on s'est dit, c'est ce qu'on va faire, les gars. À Nouvel An, on va rester ensemble. On habitait ensemble, on avait un appartement, on habitait ensemble. On va rester là, on va pas chez nos parents. On va prier, on va jeûner. On avait plein de sujets, mais surtout un, se marier. Et alors, on priait, mais ça priait sec, hein. On prie, on mange pas, on prie. Et puis arrivé à minuit, je ne sais pas pourquoi, on croyait que minuit, voilà, on va passer là, et on va prier pour se marier maintenant. Et on prie pour un, on prie pour l'autre, on impose les mains, on impose les pieds, on fait tout ce qu'on peut, et on prie. Et puis moi, j'étais déjà pasteur, donc on arrive, moi j'arrive le 4-5 janvier au premier culte de l'année, et comme on vient de prier qu'on a posé les mains, je regarde, elle est où? Évidemment, j'ai mes yeux ouverts, rien. 26 ans, qu'est-ce qu'on fait tous les trois? Rien. 26 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. On prie, on jeûne, on y va. Et c'est Nouvel An comme ça à chaque fois. Et puis on arrive, 26 ans, rien. 27 ans, rien. 28 ans, rien. On se dit, là, il faut prophétiser maintenant. Il faut qu'on passe un cap. Il faut qu'on passe un cap supérieur. Et puis, à Nouvel An, on s'évit, on dit, je prophétise. Cette année, c'est la bonne. Et puis finalement, ben, avec le temps, on s'est tous mariés. Mais moi, à 29 ans, ouais, j'ai rencontré ma femme, et à 31 ans, on s'est mariés. Et puis je me dis, heureusement que Dieu a tardé, parce que pour servir Dieu, si je n'avais pas la femme que j'ai, et si elle n'avait pas le mari qu'elle a, je ne sais pas si on serait encore dans le ministère tous les deux. Il vaut mieux attendre un petit peu plus et être béni que de se précipiter et puis payer un autre prix. Amen. Donc je remercie Dieu. Quand les prières tardent, Dieu sait pourquoi. C'est mieux d'écouter Dieu que de faire... Voilà. Et c'est le quatrième point. Non, c'est pas le cinquième point, mais le quatrième point, c'est un autre point. Donc prie jusqu'à quand quelque chose se passe. Et si la prière tarde, c'est pas grave, c'est le jeu. Des fois, c'est le jeu. Moi, ma femme, elle a 10 ans de moins que moi. Donc, quand j'ai commencé à prier à 23, elle avait 13 ans. Juste pas possible. Voilà. J'ai compris après quand je dis, ah, mais voilà pourquoi ça traînait comme ça. Hein? Donc, voilà. Et puis, c'est un conseil que je donne. C'est le point 4, mais c'est un conseil. On doit apprendre absolument. L'Église, pour moi, je crois fort à l'Église. Alors, c'est l'endroit où tu es le plus déçu, généralement, mais je crois fort en l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église devrait être ce lieu de guérison. L'Église devrait être ce lieu d'accueil. L'Église devrait être ce lieu d'accompagnement. L'Église devrait être ce lieu de compassion. Et c'est à nous à apprendre à discerner. Tiens, quand je vois un frère ou une sœur qui souffre, à la place de lui remettre un coup de bâton en plus. On est spécialiste, moi le premier. Hein, il y avait un gars qui avait le cancer chez moi, là, quand j'étais pasteur, il avait le cancer. Troisième fois qu'il a le cancer, le monsieur. Cancer, la leucémie. À la troisième fois, il n'y a personne qui a réussi à résister à trois chimiothérapies. Et à la deuxième fois qu'il a, donc il a le cancer, lui, sa femme a le cancer de la tête, elle meurt. Lui a le cancer du sang, il s'en sort. Il a deuxième fois le cancer du sang, une leucémie. Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas une femme de l'église qui vient le trouver? Parce que le monsieur, il est dans la pub, et il a fait une publicité pour des chaussettes pour les femmes, et on voyait deux jambes de femmes, mais propres, hein, jusque-là, avec des chaussettes, quoi. Et la femme est venue lui dire, tu sais pourquoi tu es malade? Parce que tu as fait des choses sales dans les publicités. Le gars, il est à moitié mort, tu viens encore lui mettre un dernier coup de bâton, toi qui es chrétienne, avec un verset en plus. Vous voyez un peu? Apprenons à discerner par quelle saison la personne en face de nous, notre frère, notre sœur, passe. Un arbre fruitier, le meilleur arbre fruitier du monde, il passe, comme tout le monde, par quatre saisons. Il n'y a qu'une saison qui donne du fruit. Et les trois autres, elles le préparent. Si tu vois le gars pendant l'hiver, il ne porte pas de fruit. C'est l'hiver et tu peux dire à l'arbre, si jamais j'ai pas des pommes ce soir, gare à toi, sale arbre, je vais te maudire. Mais je suis en hiver, il fait froid, la sève ne monte pas, il n'y aura rien, il faut du soleil et tout ça. Et puis après tu as l'automne, c'est pareil, puis tu as le printemps, tu as un peu des fleurs, et là ce n'est pas encore le moment, on voit des choses. C'est seulement pendant l'été qu'il y a les fruits en abondance. Quatre saisons, trois de préparation. C'est pareil pour nous. Apprenons à voir, tiens, mon frère et ma sœur qui est là, par où il passe? S'il est en hiver, je vais lui dire, ne tracasse pas mon frère, tu passes en hiver, mais juste après, il y a l'automne, il y a le printemps, et puis un jour, il y aura l'été. Je vais prier pour toi, et pas lui dire, aïe, 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 tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce que tu as encore fait? Mais non. Vous voyez ce que je veux dire? L'Église doit être un lieu d'encouragement, de compassion. Pas faire comme Pénina a fait. Pénina, elle a, par son comportement, elle a rendu la vie d'Anne, qui est déjà amère, encore plus amère. Ne soyons pas des Pénina, soyons des gens, des hommes et des femmes qui, comment est-ce que je veux dire, qui discernons, qui prions et qui encourageons. C'est normal de ne pas toujours porter du fruit. Amen. Même le pasteur. Un petit amen, ça ferait du bien. Amen. Voilà. Même sa femme, même ses enfants, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc soyons des gens encourageants. Puis dernier point, peut-être dernier point, c'est attention à l'entretemps. Il y a l'entretemps. Vous savez, au moment où Anne pleure et est amère, et au moment de la bénédiction, il y a l'entretemps. Et l'entretemps est un moment propice à faire des bêtises. L'entretemps est un moment propice à dire « je vais faire moi-même ». Puisque ça traîne, je vais faire moi-même. Je vais aller voir Agar, parce que je veux des enfants. Et puis tout, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention, il faut bien, pendant l'hiver, l'automne, le printemps, reste calme, les fruits arrivent. Amen. Ne faisons rien par nous-mêmes, laissons Dieu faire. Et en même temps, peut-être le dernier point c'est ça, Anne elle a fait sa part. Et c'est là aussi qu'elle est un modèle pour nous. Qu'est-ce qu'elle fait Anne ? Elle ne fait pas que prier. C'est une super femme de prière, mais pour avoir un enfant, à part Marie et Joseph, le reste, ben, il faut faire des choses. Et elle a fait, dans ce cas-là, bon voilà, elle a fait ce qu'il fallait pour être enceinte. Et nous, alors, il y a la part, dans notre vie, il y a toujours comme ça, il y a la part de Dieu, et puis il y a notre part. C'est ça le succès aussi. Quelle est ma part à faire ? Tout n'est pas spirituel, tout n'est pas, oh je prie, j'attends, oui, prie. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire ? Il faut prier, comme dirait Saint Benoît, ora et labora. Prier et travailler. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas rien faire, mais il faut les deux. Si tu ne fais que travailler, tu n'es pas béni. Si tu ne fais que prier, il manque quelque chose. Les deux sont en bon équilibre. Il faut prier beaucoup, travailler beaucoup. Amen. Voilà un petit peu les points que je vais mettre en avant ce matin. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je peux arrêter maintenant. Voilà. En tout cas, cette dame, elle me frappe. C'est le résumé. Elle me frappe. Pourquoi ? Parce qu'elle a un contexte, on l'a vu, très difficile. S'il y a une qui rame, c'est elle. S'il y en a une qui est en train de passer par un hiver spirituel, c'est elle. C'est difficile. Et pour s'en sortir, on a vu 5 points. Le premier, elle a une vision, elle a un projet, elle a un rêve parce qu'elle croit que Dieu est capable. Je fais une parenthèse que j'ai oublié de dire. On n'est pas tous appelés à être papa et à être maman. On n'est pas tous appelés à se marier même. Paul, Jésus, était célibataire. Il y a des ministères, moi j'ai un ami qui est très connu, je ne vais pas dire son nom, il est très connu, vous le connaissez, j'ai dit son nom, oui, on le connaît, c'est un bon ami à moi, il a maintenant 40 quelque chose, 45, et lui et sa femme se sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Il m'a dit, Benoît, on m'a imposé les mains, on m'a imposé les pieds, on a fait jamais, on m'a même prophétisé. Avec le recul, il m'a dit, mais c'est pas possible d'avoir le ministère que j'ai avec des enfants. On n'est pas tous, et alors il accepte. Aujourd'hui, il a accepté ça, sa femme, parce que sa femme, elle a un grand ministère. Moi j'aime pas les grands ministères, j'aime pas ça. Il a un ministère où il a beaucoup de travail, il bouge beaucoup, et les deux, de leur côté, c'est juste pas possible des enfants. Voilà. Et il y a une dame que j'ai vue il y a pas longtemps, enfin, j'en ai plusieurs en tête, même des hommes, qui, souvent les missionnaires, alors aujourd'hui, bon, il y a WhatsApp, tout ça, mais dans le temps, tu partais 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis tu revenais peut-être 5 ans après. Comment tu veux avoir des enfants, te marier, et pas être là, ça n'a pas de sens. Et j'ai vu une dame là aussi, qui a fait un livre d'ailleurs, et qui m'a dit, ben non, moi je suis parti en mission toute ma vie, j'aurais pas pu me marier. Et je ne voulais pas. Parce que ça aurait... Voilà, donc... Peu importe comment Dieu nous bénit, il faut juste trouver la paix. T'es marié, t'as 5 enfants, amen. T'es marié, t'as 5 enfants, amen. T'es marié, t'as pas d'enfants, amen. T'es pas marié, amen. Si c'est la volonté de Dieu. C'est pas ça qui fait qu'on est béni ou pas. Maintenant, si t'as le désir de te marier, bon, il y a des signes, je vais pas faire un truc là-dessus, mais si t'es pas appelé au célibat, tu le sais. Moi, je suis pas appelé au célibat, je vous le dis. Moi, je voulais me marier, donc voilà. Mais il y a des gens qui sont appelés à ça, et ils le savent. Pourquoi ? Parce que moi, je voulais des enfants. Donc quand t'as déjà le désir d'avoir des enfants, c'est compliqué d'être appelé au célibat. Hein, voilà. Bref. Donc, elle a une vision. Deuxièmement, elle persévère sans faille. Je dis bien, elle persévère quand ça ne va pas, sans faille. Elle prie, c'est une femme de prière, et elle fait comme j'ai dit, elle push, elle prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Elle n'arrête pas de prier jusqu'au moment où elle a sa bénédiction. Elle discerne les temps. Elle discerne les temps, ça c'est important. Et attention, elle ne se laisse pas attraper par l'entretemps, qui est délicat. Elle reste concentrée sur son rêve, sa vision. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, merci pour ta bénédiction, Seigneur. Merci pour cet exemple d'Anne, Seigneur. Moi, elle m'impressionne. Quelle dame de Dieu, quelle femme de Dieu, quelle puissance, quel magnifique témoignage. Et puis, quel grand Dieu tu es, Seigneur. Quel grand Dieu tu es. Tu es celui qui agit en ton temps, Seigneur. Et quand tu agis, quelque chose se passe. Anne, à la fin, elle a accouché d'un enfant qui s'appelle Samuel. Quel juge, quel prophète, quel ministère, quel grand monsieur, Seigneur. Et Anne, elle n'a pas eu seulement lui, elle a encore eu 3 filles et 2 garçons après, Seigneur. Tellement tu bénis. Quand tu bénis, Seigneur. Aide-nous à faire comme elle. Aide-nous à avoir un projet. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à prier jusqu'au bout. Aide-nous à croire que tu es capable d'agir dans nos contextes difficiles, Seigneur. Aide-nous à vivre quelque chose avec toi comme elle l'a vécu, Seigneur. Et c'est ton désir, c'est que chacun de nous, on vive quelque chose de concret avec toi dans notre vie intime, dans notre vie de tous les jours. Papa, je t'ai ainsi prié. Et je veux te prier, Papa, pour chacune et chacun de nous, Seigneur, ce matin. Si mon frère, si ma sœur passe par des moments pénibles, Seigneur, si mon frère et ma sœur passent par des orages, Seigneur, j'aimerais leur dire que tout orage a une fin. Et j'aimerais prier, Seigneur, bénis-le, bénis-la, Seigneur, touche, agis puissamment, Seigneur. Je te prie de toucher mon frère, de toucher ma sœur dans leurs secrets les plus intimes, Seigneur, et que tu puisses leur reparler ce matin, Seigneur, les réencourager, Seigneur, réenclencher le rêve et la vision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Papa. Amen.